Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant de démarrer cet épisode, petite précision que Florent souhaitait ajouter à notre épisode. Il remercie Distance Plus pour lesquels il était parti faire ce trail, cet ultra trail dans le Val d'Aran. Merci beaucoup à eux de lui avoir permis de faire cet événement et surtout de pouvoir nous partager aussi rapidement cette expérience de vie qui fut sacrément intense. Vous allez le découvrir et l'écouter. J'en profite pour faire un petit coucou à Nicolas Fréret. Nicolas qui, si vous ne le connaissez pas, est l'hôte, l'animateur du podcast La Bande à des Plus, que je vous recommande vivement d'aller écouter, toujours de très chouettes épisodes. Voilà, petit coucou à Nicolas, et puis moi je vous souhaite un très bon épisode.
Et voilà, bon, sinon comment ça va? Bah écoute, ça va bien, un petit peu fatigué parce que je suis rentré hier soir dans notre très chère et tendre Bretagne un peu tard, donc voilà, beaucoup d'enfants hier pour rentrer des Pyrénées, mais sinon tout va bien et je suis en vacances encore, donc il n'y a pas de raison que ça aille mal, même si quand tu es à ton compte, tu le sais bien, les vacances, c'est des fois un peu relatif.
Exactement, alors en fait, on échangeait en début de semaine, là on enregistre le 11 juillet, et on enregistrait, bah, c'était même hier, ou avant-hier, ouais, avant-hier, non, hier on échangeait, et puis tu me disais que tu rentrais justement du Val d'Aran, et que ça avait été un petit peu compliqué, comme tu viens sur le Grand Raid du Finistère, tu me disais j'espère qu'on n'aura pas la même météo, puis je te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, tu me commences à me raconter, puis là je te dis mais attends, mais c'est un truc de fou là qui vient de t'arriver, il faut que tu me racontes ça en podcast, et puis que tu partages ton histoire, ton expérience. Alors déjà, comment est-ce que tu as découpé ton année, et qu'est-ce que cet ultra sur le Val d'Aran, bah UTMB, quel était l'enjeu pour toi sur cet événement?
Alors, il y a un peu deux questions en une, donc je vais prendre dans l'ordre. Donc, comment j'ai découpé mon année? Bah, cette année, moi, je voulais faire l'UTMB, mais bon, comme chacun sait, à moins d'être dans les élites mondiales, on passe par la loterie et j'ai pas eu cette chance d'être tiré au sort. Donc, du coup, je me suis rabattu en gros objectifs sur ta course, le Grand Raid du Finistère. Mais j'avais quand même envie de faire un peu de montagne parce que, moi j'ai commencé le trail il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, je fais des courses en montagne, du coup, j'essaye un peu d'organiser mes années avec un peu de montagne. Et j'ai un peu progressé là-dessus depuis quelques années. Donc, je voulais quand même faire un peu de montagne cette année. Donc, la première partie de saison était plutôt axée sur la montagne, effectivement. Alors, la toute première partie de saison, plutôt en Bretagne, pour travailler la vitesse, donc avec des trails quand même renommés, tels que le Cap Sizun, ensuite Saint-Pierre, pas loin de chez moi, Saint-Pierre de Pléguin, le Trail des Vallées. Et puis après, je suis passé vraiment sur de la montagne avec... je voulais faire ça cette année. Pour une fois, j'avais un peu réfléchi, j'avais pas pris les courses n'importe comment. Et donc, j'avais découpé ça de telle sorte que j'avais commencé par le Nivolet-Revard, qui est une course, la course organisée par Hugo Ferrari, pas loin d'Aix-les-Bains, à 55 km avec 3000 de D+. Ensuite, il y avait la Maxi Race, donc 88 avec 5000, où on augmentait un peu. Et j'avais sélectionné le Val d'Aran, on va dire, pour terminer ce cycle-là, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il était bien positionné, pas trop près du Grand Raid du Finistère, parce que moi, enchaîner les ultras... il y en a qui arrivent, moi c'est pas comme ça que je vois la chose. Et la deuxième chose qui était intéressante avec cette course, il y a plusieurs choses d'ailleurs, c'est que déjà c'est une course by UTMB, donc tu sais à peu près où tu mets les pieds, ça reste dans le circuit UTMB. Après des critiques il y en a sur le circuit UTMB, mais moi je pense que ça reste quand même, voilà, tout le monde a envie de faire des courses by UTMB, ça reste vraiment des beaux événements. Donc il y avait cette raison. Il y avait la deuxième raison qui était que c'est une course qui permet de cumuler, enfin c'est ce qu'on appelle sur le circuit une major, c'est-à-dire qu'elle permet de cumuler 8 running stones. Les running stones, c'est quoi? C'est des chances d'être tiré à la loterie pour l'année suivante pour participer à la MEC, l'UTMB. Donc ça, c'était intéressant de mon point de vue. Et là où sur les autres courses du circuit, les 3 premiers sont qualifiés directement, sur le Val d'Aran, c'est les 10 premiers. Donc je m'étais aussi dit que on ne sait jamais, voilà, même si cette année la course était plus relevée, on sait comment un ultra ça se passe, un peu comme dans le foot, un petit club, s'il y a un gros devant pêche, et ben je serais là pour prendre sa place. Donc je m'étais dit ça, que voilà, il y avait des choses à jouer sur cette course-là. Et la dernière chose, c'était que c'était les Pyrénées, je ne connaissais pas, et que voilà, j'avais envie de découvrir ça, et ça reste quand même un gros morceau, donc je voulais voir si j'étais capable de le passer, puisqu'il fait 163 km et quand même 10 000 mètres de dénivelé positif. Et donc négatif.
Ouais, parce que mis à part la TDS que tu avais bouclée l'année où il y avait eu ce fameux décès en 2021, c'était ta plus longue expérience de montagne, si je ne me trompe pas.
Ouais, de montagne, si on considère que la diagonale n'est pas de la montagne, oui, la plus longue, c'était la TDS. Ouais.
Ah oui, tu avais quand même la diagonale. Ouais,
ouais, ouais. Ouais, j'ai fait la diagonale à la suite de la TDS, justement.
Ok, du coup, c'est vrai que cet événement, enfin, j'en entends pas mal parler. Les paysages ont l'air d'être quand même sacrément chouettes. J'ai regardé un peu les photos qu'on peut y retrouver. Qu'est-ce qu'il a de particulier autrement cet événement? C'est techniquement, c'est comment? C'est un trail qui est plutôt dur, plutôt roulant. Les chemins, c'est plutôt de.
Alors plutôt moi, quoi de ce que j'en avais lu, c'était plutôt raide et abrupt. Et de ce que j'en ai vu, même si on va voir que j'en ai pas vu grand-chose, enfin, en tout cas une partie, moi, j'ai trouvé ça, alors, pas roulant du tout.
Ouais, 10 000 de plus,
quand même. Abrupt, c'est-à-dire que les montées sont très raides. Là où dans les Alpes, t'as des lacets quand même pour monter, ici, ils se sont pas embêtés. Hein. Le mec qui a fait les tracés, les sentiers, c'est tout droit. Hein. Il y a le pic, et on y va tout droit. Donc les montées sont vraiment très raides. Après, sur le peu que j'en ai fait, oui, c'est assez technique, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus une diagonale ou une échappée belle, quoi. Hein. Faut pas non plus exagérer là-dessus. C'est plutôt le côté abrupt et très raide des montées et des descentes que j'ai remarqué.
Et du coup, tu as des sommets où tu vas à plus de 2000 parfois, ce que j'ai lu.
C'est ça, il y en avait 2 ou 3, je crois.
Ça coupe,
Flo. Les 2 premiers, on était monté à 2000 sur les 2 que j'ai fait.
Hein. Flo, je t'entends plus.
Ah, tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends?
Là.
Tu m'entends?
Là, je t'entends.
Ouais. Donc, où j'en étais?
Je couperai. Oui, je te disais que ça montait à plus de 2000 d'altitude parfois.
C'est ça. Et ben, je te disais que moi, sur la partie de la course que j'ai faite, les 2 premiers sommets, si mes souvenirs sont bons, montent à 2000.
Ok, et en termes de météo, en règle générale, enfin mis à part peut-être un peu de chaleur sur les portions qui sont en plaine, en termes de difficultés, on est comment? Enfin, c'est quoi comme type de...
Bah écoute, moi je m'étais renseigné auprès d'une personne que je connais un petit peu, qui l'avait fait l'année dernière et qui m'avait dit que ça c'était relativement agréable. Lui, il l'avait fait juste en maillot, il avait juste mis des manchettes pendant la nuit et il avait mis un peu sa veste parce qu'ils avaient eu un peu de brume, mais sinon ça avait été très calme, agréable, pas de froid, voilà, très bien.
Voilà. Ok. Et alors, on va rentrer
sinon, dans la journée, ça reste chaud, quoi.
D'accord. Ok, donc c'est, en fait, c'est un ultra qui reste un ultra de montagne de plus de 160 km, 10 000 de D+, donc qui est exigeant par rapport au terrain, avec des pentes très raides, mais qui reste un ultra qui reste accessible avec un nombre de ravitaillements suffisant, des conditions météo pas non plus dantesques.
Alors, accessible, c'est toujours relatif, hein, parce que 163 km, je te dis, les pentes sont très raides. Par contre, c'est clair qu'en termes de ravitaillement, à part au milieu du parcours où je crois qu'ils sont un peu espacés de 15 bornes, sinon il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tu peux toujours recharger en eau, tu peux toujours refaire tes recharges de barres. C'est assez là-dessus, oui, effectivement, tu n'as pas normalement de trop long passage, on va dire, sans ravitaillement.
Ouais, donc pour celui qui veut mettre un pied dans l'ultra de montagne, c'est un ultra qui peut être une bonne idée pour se lancer là-dedans.
Je sais, ça je dirais peut-être pas ça quand même. Parce que une fois de plus, les pentes sont très raides et quand on dit 10 000 de positif, il y a aussi 10 000 de négatif. Et clairement, les quadriceps prennent très cher dans les descentes. Donc moi, si on se lançait dans l'ultra, tu vois, je choisirais plus des courses qui sont peut-être un peu plus courtes, mais style Lavaredo où les pentes sont beaucoup plus douces. Enfin, je l'ai fait l'année dernière. Et qui va être quand même beaucoup moins traumatisant. Là, je pense que pour aller au bout du Val d'Aran, il faut quand même, être bien préparé.
Ok. Donc ça veut dire que le public qui va sur le Val d'Aran, c'est un public de trailer qui est quand même expérimenté et qui a déjà une petite expérience derrière lui.
Ouais.
Alors du coup, toi, comment est-ce que tu l'avais abordé cette ultra et comment est-ce que tu l'avais vraiment bien préparé? T'étais vraiment, tu te sentais en forme, t'étais au taquet. Faut rappeler, on l'a pas dit au début de l'épisode, mais tu fais partie des meilleurs trailers bretons, on peut le dire. Donc pour que les auditeurs connaissent un petit peu ton niveau. Donc dis-nous comment tu l'avais préparé.
Bah, comme je te disais, j'avais fait un programme de course plutôt axé montagne là sur 2-3 mois. Contrairement aux autres années, j'avais pas fait de stage en montagne à côté parce que je pouvais pas, tout simplement. Sinon, comment je l'ai préparé, habitant en Bretagne, ça a été beaucoup d'entraînement qu'on appelle navette, hein, avec des allers-retours dans des côtes, du renforcement musculaire à base de squats, de chaises, ce genre de choses. Et cette année, j'ai aussi un petit peu réduit, on va dire, la course à pied, fait beaucoup plus de vélo pour garder du volume et éviter les blessures ou de trop traumatiser le corps parce que avec les années passant, je vois que des fois, à force de courir, ça peut faire mal aux jambes, mais il y a des petites choses qui apparaissent au niveau des tendons, ce genre de choses. Donc voilà, et plus ça va, plus j'essaye d'ailleurs d'intégrer le vélo qui en plus me plaît bien et qui clairement traumatise beaucoup moins quoi. Donc voilà, après ça a été des grosses semaines, moi en moyenne je m'entraîne une quinzaine d'heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup, et là alors le gros de ma prépa a été fait plutôt avant la maxi race, entre la maxi race et le Val d'Aran, c'était plutôt, on va dire, entre guillemets, de l'entretien. Mais avant la maxi race, oui, j'ai dû passer des semaines à 25 heures à peu près.
Bon, la vache, oui, ça fait quand même des belles semaines. Ouais. Tu me fascines d'ailleurs pour ça, hein, d'être capable d'enchaîner et de te mettre ces volumes-là tout en ayant ton activité pro à ton compte. Je ne sais pas comment tu arrives à t'organiser parce que moi, je culpabilise.
Ouais, bah moi aussi, mais j'en parle avec d'autres amis qui sont à mon compte qui me disent qu'il ne faut pas. Et puis, je me suis imposé quelque part une règle, c'est que hormis le week-end quand c'est des grosses périodes, mais sinon la semaine, je m'entraîne le midi pour que ça soit indolore pour ma famille. Le soir, c'est vraiment dédié à la petite famille. Donc ici, je fais deux séances. La première, je me lève plutôt le matin. Et en fait, pour moi, je veux que la course à pied, ça soit pas le plus important dans ma vie, mais dans mon planning, si tu veux, c'est un peu la chose que je positionne tous les jours. J'ai un créneau fixe tous les jours. En premier, parce que je me dis que si je le fais pas, en fait, tu vois, ça passera toujours au second plan. Et finalement, j'arriverai pas à avoir cette bulle d'air qui peut aussi m'aider dans ma journée à décompresser ou un peu penser à autre chose. Donc du coup, je m'organise comme ça. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est quand même ce que je positionne en premier pour pas me dire je le ferai demain, comme plein de choses dans la vie on dit qu'on fera un jour et qu'on fait jamais. Donc voilà, même si c'est pas principal, c'est quand même le truc que je positionne en premier pour être sûr de l'avoir, quoi.
Ben c'est vrai que c'est un conseil qu'un autre entrepreneur, Jackie Gastesso, hein, du team partner que tu connais bien, m'avait partagé, et c'est aussi ce qu'il fait. Il va faire sa marche course tous les matins, et c'est le premier truc qu'il fait dans sa journée. Donc oui, c'est vrai que c'est un bon conseil à donner. Alors du coup, départ de ce Val d'Aran, 16h, c'est une heure particulière pour partir, je trouve. Souvent c'est tôt le matin ou minuit, mais 16h, si, bon, si, le Dogogora du Finistère, tu me diras, c'est 17h. Ouais, ouais, fin, milieu d'après-midi, c'est n'aura pas bizarre. Pour, et du coup, ça se passe comment ce départ?
Bah, le départ est vraiment bien. Alors là, il faisait chaud au départ, il y avait 32 degrés, je crois. Mais ouais, bah, c'est le départ d'une, d'une course UTMB. Hein. J'ai fait le départ du Lavaredo, c'est pareil, c'est-à-dire que la petite ville, donc ça se passe, le départ est à Viella, et sur cette course-là, parce qu'il y a plusieurs courses dans l'événement, mais le gros, le 100 miles, le départ est à Viella et l'arrivée est à Viella, donc c'est une course en boucle. Et donc Viella, c'est une station de ski, enfin en tout cas une ville connue pour ça en Espagne, qui peut ressembler, on va dire, à ouais, à peut-être un petit peu Chamonix, Courchevel, Cortina. Donc c'est une ville assez assez réputée pour ça en Espagne. Et donc bah voilà, il y a plein de monde dans les rues. Bizarrement, c'est que la troisième édition, mais vraiment on sent que là-bas ça plaît parce qu'il y a beaucoup de monde au départ. Après, bah le reste, t'as trois speakers qui mettent une ambiance de dingue avant le départ. T'as l'hymne de la course qui est le même que finalement l'hymne de l'UTMB. Donc t'es bien chauffé à blanc avant de partir. Et donc, bah, une fois parti, voilà, hein, t'es poussé par la foule et tu fais d'abord un petit tour dans la ville, un kilomètre à peu près, voilà, pour te chauffer et puis pour faire plaisir aussi au public qui est venu en masse. Et au bout d'un kilomètre, bah, les choses commencent sérieuses puisque tu enchaînes directement par un 1200 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, t'as pas trop le temps de réfléchir en fait.
Ouais, je vois ça, là, je suis sur le profil, ça, ouais. Ça a l'air de monter direct, c'est parce ça. Que sur 10 bornes, là, tu te tapes déjà, enfin, même pas 11 bornes, où est le premier ravito, t'as déjà une belle montée, la descente derrière, elle a l'air d'être bien raide.
Ouais.
Et après, ça a l'air d'être un peu plus calme et hop, ça repart.
Exactement. Eh ben, écoute, on va tuer le suspense, c'est ce que j'ai connu. J'ai pas connu la suite, mais j'ai connu ça, ouais. Donc, comme tu dis, tu as une énorme montée qui doit se faire sur 7-8 bornes, je pense, où tu prends 1002. Et donc, tu as une descente assez raide, comme tu dis, qui t'emmène au premier ravito après un passage plus roulant. Voilà. Et donc, bah, moi, pour ma part, l'idée, ça avait été c'était toujours de partir quand même un peu vite pour se placer. Donc voilà, je suis parti, j'ai vite rejoint le groupe de tête devant. Sachant que ça allait pas très vite, mais c'est normal hein, pour un 160 bornes, tu vas pas non plus griller tes cartouches sur le premier kilomètre. Et je savais très bien que dans la montée derrière, j'allais réduire le rythme parce que j'avais sans doute l'expérience. J'avais décidé sur cette course de vraiment gérer le départ, d'y aller vraiment mollo et de laisser passer la nuit et de voir le lendemain où on en est. Parce que bah maintenant c'était le troisième 100 miles que je faisais, mais ça fait 4 ou 5 ultras et j'ai vu que généralement bah, à mi-course, comme je dis souvent, tu gagnes 20 places sans avoir doublé personne parce que ça craque tellement devant que voilà, ça sert à rien de s'enflammer avant en fait. Donc l'idée elle était là, c'était juste de me placer au départ sur le premier kilomètre et puis après de prendre un rythme vraiment pas lent mais un rythme de gestion on va dire et d'économie. Et d'avoir cette fameuse phrase de Germain Granger en tête, l'ultra c'est un sport de radin, c'est qui est le plus radin qui gagne.
Voilà. Ah, je l'avais jamais entendu celle-là, mais ça me surprend pas que ce soit lui qui l'ait dit. Ah, d'accord, ok, ah, elle est pas mal, faut que je la retienne. Ok, et du coup alors après t'as pu reprendre la seconde montée ou
alors,
il y a eu le drame avant?
Eh ben le drame il s'est déroulé avec on va dire une entrée, une mise en bouche et puis après on a eu le plat de résistance. Donc cette montée bah elle se passe bien. Et arrivé quasiment tout en haut, j'ai encore le groupe de tête en visu qui doit être à 300-400 mètres. Voilà, donc je me dis que même en ayant géré, ça se passe bien. Puis là, des petites gouttes commencent à arriver. Bon, j'en vois qui mettent la veste. Moi, je la mets pas encore. Arrivé en haut, je sens des rafales vraiment, arrivé vraiment au bout du sommet. Donc je pense qu'en fait, on était sur le versant qui protégeait. Je sens vraiment des grosses rafales de vent. Donc là, je dis, je vais mettre ma veste. Donc déjà, je mets 5 minutes à la mettre, de peur qu'elle s'envole.
Ah oui, quand même, ouais.
Okay. Ah ouais, vraiment. Et là, du vent, mais très fort, une grêle qui te fouette, qui arrive. Je voyais des éclairs un peu partout. Bon, je me dis, j'ai jamais connu un vrai orage en montagne. Ça doit être ça. Voilà, ça me paraît bien violent quand même, mais... Bon, ça doit être un orage de montagne sans plus, je ne vais pas m'affoler. Donc arrivé tout en haut, tu fais après 1 ou 2 kilomètres sur les crêtes, mais ça tombait vraiment bien. Hein, et puis la grêle fouettait, quoi. Donc je me dis, putain, c'est quand même sévère ici, hein, ça rigole pas. Voilà, et puis ça se calme.
T'es à 2000 d'altitude là, hein, c'est ça?
À 2000 d'altitude, donc tu commences quand même à avoir un peu peur. Enfin, tu vois, plus comme je te dis, moi, comme toi, hein, je suis pas montagnard, donc tu me dis, bon, c'est comme violent. donc je te dis, on fait 1 ou 2 kilomètres sur les crêtes de mémoire, et puis ça se calme, et puis on commence à descendre. Bon, avec ce qui était tombé, autant te dire que les descentes. Déjà, moi, je suis un piètre descendeur. Hein, voilà. Donc là, cette descente-là, je l'ai vraiment fait tranquille parce que le sentier était vraiment trempé et je voyais que ça me doublait dans tous les sens. Mais c'était même un sketch. Hein, devant, c'était du ventre qui glisse. Hein, t'en avais qui descendaient sur le ventre, d'autres sur les fesses. Je dis, OK, moi, je vais descendre tranquillement. On est au 11e kilomètre. On va pas commencer à s'énerver. Ça sert à rien de prendre des risques maintenant. Hein, la course, elle est très, très longue. Et donc je descends aussi bien que je peux cette descente d'ailleurs plutôt dans les herbes à côté que sur le sentier, hein, parce que ça glissait moins. Voilà, on arrive en bas sur la partie, on arrive au ravitaillement. Voilà, l'orage s'était calmé, même limite le soleil recommençait à repercer, commençait à refaire chaud. Donc le ravitaillement, moi je le fais en mode express et puis je repars. Bon, le sentier était devenu très boueux. J'en voyais beaucoup qui essayaient de courir à côté. Bon, je me suis mis dans un mode course de Bretagne l'hiver, hein, type Ménestrail, autant aller dans les flaques directement, de toute façon, voilà. et donc ça se passe bien. Sur cette partie roulante, je rattrape pas mal de monde. Je sais plus combien de temps dure la partie roulante. Après, de mémoire, il y avait une autre descente qui était raide, mais plutôt en forêt. Donc était plus sèche, on va dire, qui avait moins subi l'orage bon, pareil, je prends pas de risque, hein, parce que au-delà de se faire une blessure, il y a aussi les quadris qu'il faut préserver. Enfin, moi j'ai connu à la TDS le fait de même plus pouvoir marcher dans les faux plats descendants tellement j'avais mal, donc maintenant au début je fais attention. Donc voilà, tout se passe bien et puis arrive cette seconde montée, le début, donc c'est pareil, je monte à mon rythme, je reprends pas mal de monde.
Donc là, t'es à 25 km à peu près.
Ça y est, la course, elle a commencé. On a pris un orage. Maintenant, la nuit va arriver. Il faut gérer la nuit. Et puis on verra demain. Là, dans 2-3 heures, je rejoins Emilie à la première grosse base de vie. Tout va bien, en fait. Voilà, on a pris un bon grain, un bon orage. Mais c'est passé, c'est derrière nous. C'est ce que je croyais.
Donc là, deuxième ravito, tu le passes, t'es à déjà 25 km de course.
C'est ça. Et
donc là, tu prends un pétard qui t'amène à presque 2005 d'altitude.
C'est ça. On est à 21 km de course. On a déjà à faire pas loin de 2000 mètres de dénivelé, peut-être plus même. Et donc là, on commence la deuxième grosse ascension qui commence en sous-bois. Donc tout se passe bien. On grimpe. On arrive sur les sommets. On grimpe. Et puis là, il fait chaud, hein. Moi j'ai chaud, on continue de grimper. Et puis je vois un premier bénévole arriver à peu près à 200-300 mètres du sommet qui me dit « mets ta veste ». Je lui dis « mais bah non, j'ai pas envie de mettre ma veste, j'ai chaud, pire je vais la mettre là-haut enfin, ». Je comprenais pas. Je vois une deuxième bénévole qui descend, qui me fait un grand sourire, qui me redit « mets ta veste ». Donc pareil, je me dis « non ». Et puis bizarrement, les mêmes gouttes que lors de la première ascension commencent à arriver. Donc une petite pluie, donc je dis c'est bizarre ça. J'ai déjà connu ça tout à l'heure. Et donc je mets quand même ma veste du coup et puis je monte en haut et arrivé en haut.
Donc là il fait nuit aussi, hein, c'est ça, hein.
Non, peut-être... il fait pas encore nuit.
Il fait pas encore nuit, ok.
Et arrivé en haut, la version 2, hein, le deuxième effet qui se coule, mais en pire, je trouve. Des rafales de vent j'ai lu ce matin à 150 km/h, mais ça m'étonne pas, hein, parce que moi, sur la côte bretonne, là, quand il y a des 100 km/h, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi violent. Sincèrement, dès que tu t'essayais de courir et que tes deux pieds ne touchaient plus terre, t'étais projeté, quoi. Et donc, c'était juste super dangereux. La grêle, encore pire que la première fois, qui fouettait vraiment. D'ailleurs j'ai vu des photos et après des mecs, enfin des coureurs après que j'ai pu rencontrer après dans la suite de mon histoire qui avaient des bleus, donc c'est pour te dire la violence de la chose. Sauf que là c'était beaucoup plus long et qu'avant de rejoindre on était donc au kilomètre peut-être 28-30, mais pour rejoindre la base de vie, il en restait 15, quoi. Donc là, on avait quand même une grosse partie. On était au milieu de la montagne, on était dans la partie haute et la partie où il y avait un ravitaillement entre, mais c'était qu'un point d'eau. Donc je savais très bien que c'était un endroit un peu perdu, où on ne peut pas venir te chercher ici. Donc bon, au début, je panique pas, hein, je me dis ça va être comme le premier, ça va être violent, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Donc le but est d'avancer. Sauf que vraiment, c'était de pire en pire. Je voyais les éclairs, sans te mentir, hein, qui étaient juste à côté. Enfin, j'ai jamais vu des éclairs d'aussi proches. Donc tu te dis comment je réagis, t'as les bâtons, tu te dis c'est une montée, mais est-ce que je m'en sers encore? Parce qu'avec l'éclair, non. Donc tu gères un peu la chose et ça s'empirait. Et tu commences vraiment à avoir très froid. Enfin, je commençais vraiment à avoir très, 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 très froid. Donc voilà, hein, c'est un peu les souvenirs que j'en ai, c'est d'avancer comme tu peux. À un moment, on avait une petite borne avec un coureur, on s'est mis juste derrière, histoire de prendre un repos, on va dire, de 2 minutes, d'arrêter de prendre cette grêle qui nous fouettait dans tous les sens. Et puis je repars. Et là, tu commences à te poser quand même des questions. Parce que tu te dis, comment on va sortir de là, en fait? Enfin, on est à 2000, il n'y a rien pour nous abriter. Le vent nous propulse un peu partout. Si tu as un coup de fatigue ou un coup de moins bien, t'es pas à l'abri que ça te pousse dans le vide, en fait. Donc tu commences à te poser des questions, hein, vraiment. Moi, pour ma part, sans céder à la panique, je me suis dit, il faut avancer. Enfin, il faut avancer, avance. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Donc on arrive au point que j'avais noté, qui était un ravitaillement juste d'eau, où le pauvre bénévole avait juste une petite tente et sa jerrycan. Il nous dit, si vous voulez, vous pouvez attendre dans la tente. On était 2-3 coureurs à être arrivés à cet endroit-là. Et avec un autre coureur qui était français, on se dit, bah non, vaut mieux qu'on monte et qu'on descende. Enfin, et on verra après ce qu'il en est, quoi. Est-ce que on continue ou on continue pas après ce qu'on vient de prendre, enfin ce qu'on est en train de prendre. Et donc je repars. Mais là, vraiment, mon état commençait vraiment à s'empirer parce que j'avais beau courir ou marcher vite, je tremblais. Enfin, vraiment, je tremblais. Donc je pense que l'hypothermie commençait à pointer le bout de son nez. Je tremblais vraiment. Donc je commence à remonter. Il nous restait une bonne montée, je crois, de 400 ou 500 mètres à faire.
T'avais, je te coupe, mais t'avais quoi comme équipement à ce moment-là pour te protéger?
Comme veste?
Enfin, comme équipement total, t'avais pantalon de pluie.
Alors ouais, c'est la liste, c'était l'équipement de l'UTMB, clairement. Donc,
et donc t'avais tout mis.
Donc c'est le maxi sac, hein, où t'as le collant, le pantalon de survie, les gants, le sous-pull, la veste, le bonnet, vraiment tout, quoi.
Mais là, sur donc, toi, voilà. T'avais.
Et à ce moment-là, j'avais encore mis tout mis, quoi. Que la veste et le bonnet, je pense. Et donc je repars. Tu me coupes, hein, si je vais trop vite, parce que...
Non, vas-y,
je te dis des choses. Je repars dans la montée, je te dis, je commence vraiment à avoir très, très, très froid et à trembler dans tous les sens. Et là, au loin, je vois des frontales. On était la nuit, commençait vraiment à arriver. Je vois des frontales qui font demi-tour, qui descendent en panique. Et là, je me dis, non, là, on n'est plus dans ce que je me disais lors du premier orage, on n'est pas dans l'orage normal de montagne. Là je ne pense pas, parce que là, ça me semble commencer à paniquer un peu dans tous les sens. Donc, bah, je me dis, bah, moi, je fais demi-tour aussi, hein. Je ne vais pas tenter l'aventure tout seul, je vais avec eux, je vais où ils vont, je vais les suivre, peut-être qu'ils connaissent, moi, je ne connais pas. Donc, je les suis, et au pire, on sera mieux à plusieurs que moi tout seul. Et donc c'est le moment-là, j'ai senti vraiment que la peur était un peu partout, quoi. Parce que ces coureurs-là m'ont doublé, je les ai suivis, on en a rejoint d'autres qui étaient derrière, et ça s'est mis à dévaler vers le bas, hors circuit, en fait. Enfin, le but, en gros, était de descendre le plus vite possible, quoi. Donc voilà, donc là tu cours jusqu'à ce que on tombe sur un refuge qui par bonheur était là. Bon, il y a du comique là-dedans parce qu'on s'est retrouvé à 30 coureurs au départ, puis 50 à la fin, et en fait, dedans, il y avait deux mecs qui étaient là pour la course du lendemain, parce que le lendemain, il y avait le Luchon Aneto Trail qui passait pas très loin, et qui pensait passer une soirée peinard. Ils avaient ouvert le vin rouge, la petite bouteille d'alcool fort local, le saucisson et le fromage, et ils nous disaient, les gars, vous faites chier, on pensait passer une soirée tranquille tous les deux, on est 50 là-dedans, et donc on a trouvé refuge dans le refuge, c'est le cas de le dire. Mais vraiment... bon, on voyait des soulagements sur les têtes des gens, sans doute sur la mienne, mais des sourires jaunes. Il y avait des mecs aussi qui étaient clairement en hypothermie, quoi, qui mettaient les couvertures de survie et qui n'arrivaient pas à se réchauffer. Enfin voilà, c'était vraiment assez apocalyptique. Ça nous rejoignait. On a dû finir à 50 dedans. Il y avait deux Népalais élites qui étaient partis un peu vite, que j'avais fini par doubler, qui arrivaient derrière. Ils étaient en débardeur. Ils ont mis je sais pas combien de temps, tu vois, à se réchauffer. Ils n'y arrivaient pas malgré le feu, les couvertures et tout. Et on est resté dans ce refuge, je dirais une bonne heure et demie, deux heures. La chance qu'on ait eue, parce qu'on avait zéro réseau, il n'y avait pas de réseau. Donc tout le monde paniquait aussi pour prévenir ses proches, parce que les proches voyaient bien sûr. Alors déjà, parce qu'apparemment, enfin moi, Emily m'a dit que dans le bas de la vallée, sur le lieu de départ de la course, c'est vite dégradé et que déjà en bas c'était violent, donc ils se disaient en haut qu'est-ce que ça doit être. Et surtout, on ne pouvait pas les prévenir. Et eux, vous voyez bien sans doute sur le live ou ailleurs qu'il y avait un problème parce que ça n'avançait plus, quoi. Donc, on avait aussi tout ce stress-là de se dire bon, bah voilà, là on a réussi à se mettre en sécurité, on est vraiment passé peut-être pas loin du pire. Moi j'ai entendu plusieurs mecs dire j'ai failli mourir deux fois, trois fois, et même moi à un moment, je te dis, hein, j'ai commencé à y penser, hein, sans paniquer, mais à y penser. Mais on pouvait pas prévenir les gens que voilà, on était nous là, les 50 là, en tout cas dans le refuge, parce que derrière ils avaient été arrêtés en bas avant de monter, donc eux ils étaient en sécurité, et le groupe de 10-15 qui était devant avait continué sa route, mais comme ils avaient 20-30 minutes d'avance, ils avaient réussi à descendre je pense dans l'orage, mais peut-être pas dans le pire, quoi. Enfin, après je sais pas, je parle pas à leur place, hein, mais voilà, la chance qu'on a eue entre guillemets. Donc c'est ce refuge, et c'était que le checkpoint avec le jerrycan n'était vraiment pas loin du refuge. Donc il y a tout de suite un mec de l'organisation qui est arrivé, qui a dû passer la pire soirée de sa vie, je pense, mais qui est arrivé et du coup qui a pu communiquer avec l'organisation en disant bon bah là j'ai un groupe de coureurs, enfin tu vois ils sont on est là, on ne sait pas comment on va rentrer, mais on est en sécurité en tout cas dans le refuge, quoi. Et donc bah pendant une heure et demie ça a été ça. Et le pauvre, je le voyais, hein, je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il était espagnol, mais je pense qu'il a passé une soirée horrible, parce que on sentait bien que l'organisation savait pas trop, ne savait pas trop encore comment gérer la chose, dans le sens où peut-être qu'à un moment on nous a dit qu'on allait reprendre la course. Et puis après ils l'ont plus ou moins dit qu'ils allaient l'arrêter, ce qui moi me semblait vraiment la bonne décision. Mais après c'était comment on s'en va de là, parce que l'hélicoptère, ils n'avaient pas fait venir un hélicoptère pour 50 coureurs, parce qu'il aurait fait plusieurs allers-retours, et de toute façon au vu du vent qu'il y avait ça me paraît impossible, et des voitures, des bus, tout ça pouvait pas venir. Donc il y a eu, nous on avait trouvé une solution avec d'autres coureurs, qui était en bas il y avait une piste de 4x4. Et on en avait parlé avec les mecs du refuge, et ensuite il suffisait de suivre un chemin, et on n'était pas très loin de Luchon. Moi, quelque part, ça m'arrangeait parce que je résidais là-bas. Donc on s'est dit, on va descendre, il doit y avoir 3-4 km pour arriver à Luchon. Voilà, il ne reste plus qu'à descendre ça, et puis c'est fait. Sauf que l'organisation, et ça je le comprends, n'a pas voulu qu'on fasse ça parce qu'on quittait le territoire espagnol, et je pense qu'après, tu dois mieux savoir que moi, hein, mais en termes d'assurance et tout, il pouvait y avoir des soucis parce qu'on était en France, on n'était plus en Espagne, donc voilà. Donc au départ, la solution qu'on nous proposait, c'était de quand même descendre sur cette piste de 4x4, mais pas d'aller vers Luchon, de suivre un itinéraire qui nous emmenait je ne sais plus où, hein, parce qu'une fois de plus, il parlait en espagnol, qui était plus facile que la trace officielle. Le seul souci, et c'est ça qui les a fait, je pense, changer d'avis, c'est qu'il y a des coureurs qui ont dit « Ok, sauf que là, il fait nuit, on est en montagne, on connaît pas la montagne, des sentiers, il y en a plein, quoi. Donc si on arrive en plus à se perdre en bas, ça va être encore plus le bazar. » Alors, j'ai cru comprendre aussi un moment que les accompagnateurs devaient nous accompagner, mais bon, ils voulaient pas courir, ce que je comprends, et nous, on voulait pas passer 3 heures à rentrer ou 6 heures, tu vois. Donc le dilemme était là, et au final, ce qu'on nous a proposé, qui au début nous a un peu, pas miner le moral, mais c'est dur de s'y remettre, c'est de suivre la trace officielle, parce que là, ils avaient vraiment confirmation que l'orage était passé et qu'il n'y aurait plus rien. Donc, au bout de 2 heures, c'est ce qu'on a fini par faire. il nous a tous bipé pour que le suivi puisse voir qu'on était là, qu'on repartait. Moi, à ce moment-là, je savais pas encore si la course était stoppée ou pas. Hein. C'était pas clair. Bon, Émilie, dès qu'elle a pu capter, m'a appelé et m'a dit nous, on a des infos, c'est stoppé. Donc voilà. Mais de toute façon, moi, je comptais plus. Enfin, pour moi, la course, elle était terminée. Tout ce qui m'importait, c'était de retrouver ma famille. Et puis voilà, des courses, il y en aura d'autres. Donc voilà. Et donc, on est rentré par le chemin officiel qui était quand même assez compliqué. Et là, clairement. Ça a été long, hein. Ça a été long. Les sentiers étaient devenus. Alors, je te parlais du Ménestrail tout à l'heure, hein, pour ceux qui connaissent les Bretons. Sauf que là, c'était vraiment un vrai Ménestrail, mais avec des pentes à 20%. Donc, autant en montée qu'en descente, tu peux imaginer le peu d'adhérence qu'on avait. donc voilà. Il y avait quand même des mecs qui s'étaient toujours pas réchauffés. Donc, les secours montaient et rattrapaient des mecs en hypothermie dans les sentiers. Enfin, c'était. Tu te dis, souvent on entend quand on n'est pas montagnard, hein, moi j'ai souvent entendu la montagne c'est très dangereux, ce que je crois, hein, mais et puis des fois t'entends des accidents et tu te dis mais comment ça peut arriver, là maintenant je vois comment ça peut arriver très vite en fait, enfin, tu peux vite être pris au piège quoi. Et donc voilà, et donc pour terminer l'histoire, on a fini par réussir à descendre, non pas à la première base de vie, mais jusqu'au col du Portillon, qui était un petit ravitaillement avant. Ils nous ont même pas laissé aller jusqu'à la base de vie, ce qui était une bonne décision aussi, mais parce qu'au départ, on devait aller jusqu'à la base de vie. Et là, ils nous ont arrêtés au Portillon, il y avait des bus qui enfin nous attendaient, quoi. Donc voilà, et la course, là on a eu confirmation que la course était terminée, et ce qui était, enfin moi c'était un soulagement, hein, clairement. J'ai vu des coureurs arriver longtemps après moi qui râlaient que la course ne continue pas, mais moi j'ai envie de leur dire, on est vraiment passé à côté de, je pense, quelque chose qui aurait pu être bien plus dramatique, donc soyons heureux d'être là. la décision pour moi était la bonne, et donc voilà, et donc moi, Emilie est venue me chercher directement au col du Portillon, et le reste des coureurs, il n'y a pas eu d'accident, et Dieu merci, il n'y a pas eu de, apparemment, hein, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, tout le monde semblait aller bien, de ce que j'ai lu, et donc tout le monde est rentré en sécurité à Viella. Et c'était bien là l'essentiel. Mais c'est une aventure qui. Ouais, qui. C'est dur de vraiment raconter ce qui s'est passé là-haut et de vraiment le faire sentir aux gens, en fait, parce que tu te retrouves, enfin, moi, c'était ma part. Tu te retrouves un peu dans un instinct animal. Enfin, tu penses plus à rien. La seule chose, c'est de t'en sortir, c'est d'avancer quoi. Enfin, c'était juste ce que j'avais en tête quoi. Moi, en tout cas, c'était que ça quoi. Voilà.
Alors justement, j'aimerais que tu nous racontes qu'est-ce qui se passe. Alors, tu es resté pendant, enfin, vous êtes resté pendant une heure et demie dans ce refuge. Est-ce que il y a un espèce de microcosme qui se crée avec le gars qui fait des blagues pour se rassurer parce qu'il en réalité il flippe. Il y a le mec qui est au courant de tout. Il y a le mec qui en stresse. Il y a le mec qui. Qu'est-ce qui se passe dans ce refuge?
T'avais un peu tous les profils. Au début, tu sens plutôt le soulagement, donc tout le monde, je te dis, a des sourires jaunes, mais tu vois les visages qui se détendent. Et puis après, la nature humaine reste la nature humaine. T'as tous les types de profils qui arrivent. T'as les mecs qui paniquent. T'as les mecs qui s'énervent parce qu'ils attendent. T'as les mecs qui savent mieux que l'organisation. T'as les mecs, t'as de tout quoi en fait. Donc, mais tu sens. Tu sens que le stress redescend et qu'il y a quand même un certain énervement qui monte en fait. Enfin, c'est difficile à décrire, mais oui, t'as tous les types de profils qui se révèlent en fait. Je t'ai dit, t'as ceux qui restent calmes, ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont dire quoi faire alors que je suis pas sûr qu'ils aient les bonnes solutions. Ceux qui parlent fort, ceux qui sont plutôt discrets. Ça. Voilà, mais...
Toi, tu étais quoi là-dedans ?
Moi, je me suis mis avec un groupe de deux Français, et puis on était en train de se dire qu'on avait quand même échappé à quelque chose de bien pire, et nous, on cherchait surtout, je te dis au départ, avant que l'organisation dise que c'était pas possible, on cherchait la solution la plus sûre de rentrer, en fait, voilà, tout simplement.
Alors, un mot sur, sur l'équipement obligatoire.
Ouais, alors,
il est, il est trop important. Ouais, il est comment?
Ce fameux équipement obligatoire, parce que j'ai oublié de dire que, tu vois, dans cet équipement-là, parce que là, on est vraiment au maxi-maxi. Donc, tu pars avec ton sac qui est rempli, là. Et peut-être souvent, j'ai souvent entendu dire, les courses, ils abusent, on emmène tellement de trucs. Normalement, on devrait savoir ce qu'on fait. On devrait être capable de gérer. Alors, par exemple, dans le sac, il y a un truc moi que j'avais acheté exprès pour la TDS, qui est un pantalon imperméable. Je pensais jamais m'en servir de ma vie. Bah là, je vais te dire que quand je suis reparti du refuge, j'étais bien content de l'avoir. J'étais vraiment bien content de l'avoir, en plus du caleçon un peu chaud qu'on met en dessous. Et tu vois, là, j'ai jamais vu autant de couvertures de survie sorties dans le chalet. Donc moi je sais que je dis pas que je râlais, mais comme tout coureur c'est toujours chiant de partir avec un sac blindé, mais plus jamais je critiquerai du matériel obligatoire parce que là j'ai vu clairement il y a une utilité et que ça peut te sauver en fait. Mais déjà maintenant quand j'allais m'entraîner en montagne, je partais jamais sans couverture de survie, tout ça parce que j'avais quand même entendu des histoires que ça peut arriver très vite, et là je l'ai vécu, et donc non, enfin moi si j'ai un conseil à donner, en tout cas quelque chose à dire aux gens, c'est ne râlez pas sur le matériel obligatoire. C'est pas agréable de le porter, mais peut-être qu'à un moment il peut vous servir.
Ouais, voilà. Et puis en plus, comme tu le disais, enfin nous en plus en tant que Bretons, t'as beau te dire « Ah c'est bon, on nous l'a plu, on connaît ». Non, en fait on connaît pas du tout, pour l'avoir vécu, un orage violent comme ça, où tu passes sur un sentier et puis... 5 minutes, mais encore, j'exagère, parce que c'est peut-être même 2 minutes plus tard, ça se transforme en torrent, le petit chemin. C'est ultra violent, c'est ultra dangereux, et en plus, on a un biais de localisation qui fait qu'on est moins au courant que ceux qui habitent en montagne des accidents qu'il y a en montagne. Tout comme ceux qui sont en montagne ne sont pas au courant des accidents qu'il y a en mer.
Voilà.
Donc c'est un biais.
C'est la même chose, c'est qu'ici, quelqu'un d'ici, s'il voit qu'il y a un courant énorme, il va pas partir, tu vois. Et bah en montagne, je pense que c'est pareil. Ou alors tu pars avec tes précautions. Enfin, tu vas pas partir sans gilet de sauvetage. Voilà.
Exactement.
Exactement. Voilà, en montagne, finalement, c'est la même chose. Et comme tu dis. Moi, il m'est arrivé ici, et c'est pas très intelligent, mais de faire des sorties sur le GR où t'avais des vents à 80 km/h, peut-être 90. Mais là, c'était. C'est rien par rapport à ce que j'ai vu là-haut. Voilà.
Alors, justement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour ne pas céder à la panique? Alors, tu le disais, t'avais un petit peu cet instinct animal d'aller juste te réfugier, de te mettre en sécurité. Mais qu'est-ce que tu te disais dans ta tête pour je sais pas, garder foi, garder finalement le moral que...
Bah, tu... je sais pas, c'est encore un peu frais, c'est un peu dur à raconter, mais... je pensais à ma famille, mais surtout, je me disais qu'il fallait que j'avance et surtout que je me refroidisse pas trop. Je me disais que si tu te refroidis, que tu t'arrêtes, ça pouvait être le risque de je sais pas, faire un malaise. Et là, ça pouvait très mal tourner, quoi. Donc voilà, c'était surtout ça. En fait, je crois que je pensais pas à grand-chose, hormis le sentier qu'il y avait devant moi, et puis aller le plus vite possible pour redescendre ou rejoindre un endroit plus sûr, quoi. Je pense que c'était juste ce que j'avais en tête, quoi. Mais oui, c'est difficile à décrire, mais à un moment, sans paniquer, moi, c'était mon cas, tu te mets l'éventualité que, ouais, tu vas peut-être t'y rester là, quoi, je sais que ça va sans doute glacer le sang de ceux qui vont m'écouter, mes proches, mais oui, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Tu te dis, on est peut-être pas loin, là. Voilà.
Ouais, voilà. C'est l'ultra. L'ultra est un sport dangereux sur certains aspects, et notamment celui de la météo et des lieux où on va pratiquer ce sport. Au-delà du fait de mettre son corps à rude épreuve, si on a un corps qui est affaibli et qu'en plus on va aller se taper un orage comme ça, parce que là, bon, vous étiez au début, vous aviez encore la forme, on était dans le début de la première nuit.
Ouais, aussi,
imagine la même chose avec des jambes flinguées, une nuit blanche, voire deux. C'est différent.
Clairement, enfin, comme tu dis, la nuit n'était pas encore tombée. Et ça aussi, c'est une chance, parce que moi, je ne me serais pas vu faire ça en pleine nuit, même si on avait été qu'à la moitié de la course. Enfin, et comme tu dis, moi, j'ai de la chance d'être assez résistant, mais quelqu'un qui fatigue vite parce que tu luttes, hein, c'est un peu comme quand tu luttes contre le courant ici ou contre les vagues, tu fatigues. Là, tu luttes contre de la grêle, tu luttes contre du vent, tu lâches beaucoup de cartouches au final. Donc oui, t'es pas à l'abri d'être très vite épuisé, comme je te dis, c'est pour ça que moi j'avais qu'en tête d'avancer, peu importe le moyen, mais pour t'évoquer aussi la violence du vent, je sais pas si t'as vu le résumé de Julien Charrier, donc il devait 20-30 minutes, peut-être un peu plus devant, lui en plus il est grand, il disait qu'il s'allongeait dans le sentier pour éviter de se faire emporter, donc vraiment... Ouais, non, voilà, bon, écoute...
Et alors là, on est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais parce que c'est encore très frais, ça fait trois jours. Mais est-ce que tu penses que tu auras une appréhension au prochain trail montagnard que tu vas aller faire et si oui, qu'est-ce que tu penses faire pour remédier à ça?
Alors, j'ai pas entendu le début de la question, ça a coupé. Est-ce que j'aurai un orage, tu dis ?
Je disais, comment est-ce que tu penses appréhender le prochain trail montagnard que tu vas aller faire ? Est-ce que tu penses avoir une est-ce que tu penses avoir une appréhension ?
Comme tu dis, c'est un peu frais. Alors après, on n'est pas à l'abri, hein, parce que moi, pour le moment, j'ai fait 300 miles. La TDS, comme tu sais, elle a été arrêtée parce qu'il y avait un accident. Bon, la diagonale s'est passée, mais elle a été décalée. Et celui-là, il a été arrêté. Donc, sur les trois, il s'est passé quelque chose. Après, quand je lis le résumé de Julien Charrier, il dit qu'il a jamais connu un orage aussi violent. Donc, je me dis qu'il y a une chance sur 1 million que ça me réarrive, cette chose-là. Alors après, ça peut réarriver. Hein. C'est comme au loto, t'en as qui gagnent deux fois. Hein. Comment j'apprendrai la chose ? Je pense que c'est comme quand dans une course tu tombes, en fait. Enfin, faut pas trop y penser parce que sinon derrière c'est foutu. Je pense qu'il faudra essayer de faire abstraction de ça. Enfin, si t'y vas en ayant la peur, n'évite pas le danger. Moi, j'aime bien cette phrase. Si t'y vas en ayant peur, enfin, moi c'est ce que je dis toujours à mes enfants aussi. Hein. Tu peux être gravement blessé ou même mourir en tombant de ton lit. Hein. Voilà, donc. Donc je pense que le prochain j'essaierai de d'oublier ça et plutôt de m'en servir si jamais je me retrouve dans une situation peut-être refaire en mieux les choses que j'ai faites là pour m'en sortir, c'est-à-dire pas partir à l'aventure tout seul. S'il y a des coureurs qui font demi-tour, c'est les suivre. Pour le coup, ils descendaient comme des fous. Après, j'en ai parlé avec eux, il y a des mecs montagnards, ils m'ont dit bah oui, quand il y a un orage, en gros, faut le fuir, donc faut descendre peu importe quel moyen et quel chemin. Voilà, c'est plutôt ça, c'est de garder les bons réflexes. En tout cas, garder les bons réflexes. Je ne sais pas si j'ai des réflexes parce qu'une fois de plus, j'habite pas en montagne. Mais oui, ce sera ça, d'être intelligent et surtout de pas vouloir faire le guerrier ou le cacou ou celui-là qui va être plus fort que les autres dans ce genre de situation. Quoi. Voilà.
Quels sont tes apprentages sur tes apprentages tes apprentissages sur toi-même que tu as pu avoir là grâce à ça?
Bah écoute, sur ma pratique globale du trail, déjà depuis le début de l'année, c'est peut-être parce que là j'arrive, mais j'avais envie de le faire de plus en plus par plaisir en fait, et de moins en moins peut-être un peu moins sérieusement, on va dire. Et donc là, déjà l'année dernière, j'avais pris un gros coup sur la tête. Alors, c'était pas du tout la même histoire, mais au Canada, j'avais abandonné. Alors, je m'étais mis une pression de folle, et puis ça avait pas marché. Je m'étais mis un gros coup sur la tête et je m'étais dit. Finalement, s'imposer autant de choses, alors je te disais tout à l'heure, je m'entraîne 15 heures, mais s'imposer autant de séances que tu n'as des fois pas envie de faire ou de choses dans ta pratique qui ne te font pas trop plaisir et que tu fais seulement pour une pseudo-performance qui finalement sera très vite oubliée, que ce soit par toi ou par les autres, parce que ce n'est pas notre métier. Et puis voilà. Finalement, ça m'a mis un deuxième coup sur la tête et moi, ça fait 3 jours que j'y pense et j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai encore envie de faire des courses et des belles aventures. J'aimerais notamment faire une fois l'UTMB. Mais j'ai encore moins envie de me prendre la tête. Encore moins. Quoi. Voilà, j'ai envie de faire du sport juste pour le plaisir. Et puis de m'imposer des choses et sur tous les aspects. Voilà. Peut-être aussi parce que, tu vois, une fois de plus aussi, j'ai 40 ans et je sais que ça deviendra dur de toute façon en concurrencer la nouvelle génération qui arrive de plus en plus tôt. Mais après, ouais, s'il y a une chose que je me suis dit sur les sommets à un moment donné, c'est s'investir autant pour risquer sa vie comme ça, c'est peut-être pas la peine en fait. Voilà. Voilà.
Ah, c'est sûr qu'on est peu de choses hein, face à la nature quand elle a décidé de se déchaîner sur nous.
Donc, je dis prendre ma pratique de façon sans doute plus simple. Voilà.
C'est difficile hein, de trouver cet équilibre quand on a un peu cet aspect compétiteur quand même et de garder une préparation suffisante pour aller faire ces distances qui sont quand même exigeantes.
Ouais, bah écoute, on verra. Je te dis ça se trouve, sur le prochain, je m'entraînerai comme un dingue, mais là, c'est plutôt le mood dans lequel je suis. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé la course il y a 4 ans et demi. En 4 ans et demi, j'ai connu donc, bon, le Covid qui est autre chose. J'ai connu un mort sur la TDS, j'ai connu la diag reportée, et là je connais ça, tu vois, ça fait beaucoup quoi. Tu vois, en peu de temps, ça fait beaucoup, donc oui, ça me fait prendre pas mal de recul quoi. Voilà.
Tu serais pas un porte-poisse pour ce sport
hein. Ouais, sincèrement, François Pélan, que tu connais bien, m'a dit l'autre jour, t'as vraiment pas de chance, c'est pas possible.
Je commence à flipper là pour le Grand Raid du Finistère. Ouais. Je sais pas.
Il m'a dit qu'il arriverait à rien. Je lui ai dit, tu sais, je suis pas à l'abri du tsunami là. non, il arrivera à rien.
Bon, alors justement, le Grand Raid du Finistère, c'est dans 2 mois. Ouais. Comment est-ce que tu vas aborder cette course avec ce terrain que tu connais bien?
Ouais, bah déjà. On va dire que l'entraînement, il est quand même pas mal fait. Il va falloir entretenir, mais bon, voilà. On remettra un peu au mois d'août, mais de façon sympa. Comment je vais l'aborder? Bon, déjà, j'ai très envie de le faire parce que, effectivement, c'est un terrain que je connais bien, sauf que j'ai jamais été sur la presqu'île de Crozon, donc je suis un GR34, mais pas cette partie-là. Donc, déjà, ça va être sympa. Je pense qu'il va y avoir en plus des coureurs de plutôt bon niveau. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de faire une belle balade, de faire du mieux possible. De ne pas partir trop vite parce que je pense que ça peut être le piège sur ce genre de terrain. Et là, il faut courir tout le temps. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de longue montée d'une heure et demie, hein, a priori.
Sauf pour aller jusqu'au Ménésum.
Voilà, donc. Donc ça va être surtout ça, mais je vais y aller pour faire quand même du mieux possible, hein, voilà, et puis le prendre, comme je disais à l'instant, le plus en décontraction possible, ne pas me mettre de pression, et puis arrivera ce qui arrivera. Et comment je vais le préparer, bah je te dis, je pense que cet été, du coup, je vais laisser un peu tomber le dénivelé, je vais beaucoup courir sur le GR, peut-être pas avec des séances, tu vois, typées, fractionner tout comme je mettais avant, mais peut-être juste pour le plaisir et entretenir la caisse. On verra bien si ça marche ou pas. Et je compte quand même aller faire le tour de la presqu'île, peut-être au mois d'août en rando, tu vois, histoire de voir le parcours. Et puis, comme je suis une star, pour me perdre, pour l'avoir en tête et éviter de me perdre le jour J. Parce que comme il n'est pas balisé, ça me met encore plus de handicap.
Et ben, au moins, s'il y a une tempête, on risque pas d'avoir un balisage qui s'envole. Donc, ça, c'est...
Ouais, donc voilà. Mais j'ai hâte d'y être. Et puis après, l'année, je pense, sera plus ou moins terminée pour moi. Voilà.
Eh ben écoute, merci Flo hein, pour ton partage de ton aventure, de ta mésaventure sur ce Val d'Aran. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange?
Non, bah si ce n'est que ouais, faites tous bien attention quand vous allez sur une course. On voit que tout peut arriver en fait. Voilà, parce que Je suis quelqu'un souvent qui anticipe beaucoup de choses. Donc là, j'avais anticipé plein de choses sur cette course-là, mais je n'avais pas anticipé ça, en fait.
C'est difficilement anticipable. Hein. Merci encore une fois, Flo. Et puis, juste pour finir de préciser, il s'agissait absolument pas de tirer à boulet rouge sur l'organisation qui a dû se sentir bien en panique et qui a sûrement fait tout ce qu'elle pouvait pour les coureurs. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en interne. Donc, il s'agit pas de les pointer du doigt, c'était pas du tout l'objectif de cet épisode, c'était surtout d'avoir les apprentissages de Flo pendant sur cette aventure et que ça puisse servir justement à d'autres si jamais ça vous arrive, ce que je ne vous souhaite bien évidemment pas. Ça fait toujours du bien d'avoir ces expériences, ces mésaventures des autres pour pouvoir progresser soi-même. Merci beaucoup, Flo, d'avoir partagé aussi vite ton ressenti sur...
De rien. Une fois de plus, comme tu dis, de toute façon, l'organisation a pris la bonne décision d'arrêter la course parce que la vie des gens est plus importante. Et de deux, j'ai accepté, ouais, même si c'est pas très simple 3 jours après de le faire, mais de partager ça parce que... notamment pour tous ceux qui n'habitent pas là-bas, je me disais que ça pouvait servir et de raconter comment ça peut très vite mal tourner. Voilà. Donc, prenez soin de vous quand vous y allez, faites attention.
Exactement, et c'est un très beau mot pour conclure cet épisode. Prenez soin de vous, défiez-vous, mais prenez soin de vous surtout. Votre santé, vous n'en avez qu'une. Et puis, merci Flo, on se voit bientôt par chez moi.
Avec plaisir.
Allez, bye bye.
Ciao. Des gens est plus importante. Et de deux, j'ai accepté, ouais, même si c'est pas très simple 3 jours après de le faire, mais de partager ça parce que notamment pour tous ceux qui n'habitent pas là-bas, je me disais que ça pouvait servir et de raconter comment ça peut très vite mal tourner. Voilà. Donc, prenez soin de vous quand vous y allez, faites attention.
Exactement, et c'est un très beau mot pour conclure cet épisode. Prenez soin de vous, défiez-vous, mais prenez soin de vous surtout. Votre santé, vous n'en avez qu'une. Et puis merci Flo, on se voit bientôt par chez moi.
Avec plaisir.
Allez, bye bye.
Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.